2 Corinthiens chapitre 4, je suis content de tourner avec vous dans la parole de Dieu. Et c'est la parole vivante de Dieu, on est content que cette parole transforme les vies. Cette parole est notre espérance, cette parole écrite nous parle de Christ, la parole incarnée. On a eu un beau passage d'écriture en ce moment. On est dans 2 Corinthiens, pardon, chapitre 4. On va lire les 7 premiers versets. Quand ça commence avec un « c'est pourquoi », ça nous ramène à ce qui est avant. On va en parler après. Je commence au début du chapitre 4, mais vous allez voir, je vais vous donner un peu le contexte tantôt. « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On te remercie, Seigneur, pour ce beau texte qu'on considère ce matin. Merci pour ta miséricorde. Merci que tu nous as délivrés de notre condition misérable par Jésus-Christ. Merci pour l'Évangile qui est la révélation de la justice de Dieu. Merci Seigneur que on peut considérer ce matin ce glorieux évangile, la gloire qu'on retrouve dans ce message, dans cette délivrance qui est parfaite, qui est complète en Jésus-Christ. Seigneur, on est venu ce matin avec chacun des choses dans nos cœurs, dans nos pensées, et là on veut s'arrêter. Alors vraiment, Seigneur, que tu captives notre attention. Esprit du Dieu vivant, toi qui es notre vrai enseignant aujourd'hui, toi qui es celui qui nous convainc, fais ton œuvre. On veut te confesser, Seigneur, toute chose qui pourrait empêcher que tu aies la pleine liberté maintenant d'exercer ton ministère, d'exercer, Seigneur, la grâce que tu veux étendre à chacun de nous ici. Et même d'étendre ton salut à ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, pardonnés, lavés, sanctifiés par Christ. Seigneur, on s'attend à toi. Tu es le Dieu qui répond aux prières. Tu es le Dieu vivant. On s'attend à ce que tu fasses des choses grandes et merveilleuses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. On vient de lire un des passages d'Écriture que j'aime vraiment beaucoup. En fait, on aurait pu lire tout le chapitre. C'est dans ce chapitre-là aussi que ça parle qu'on ne regarde pas aux choses visibles, aux invisibles, parce que les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. On va parler ce matin de la gloire de l'Évangile. Plus précisément, de la gloire de l'Évangile, de la miséricorde de Dieu. Juste pour vous dire, le Seigneur m'a dirigé vers ce texte dans un temps de prière. Je ne sais pas si vous faites ça des fois, mais vous savez, moi, j'essaie de demander au Seigneur que ça ne devienne pas quelque chose que je deviens encarcané dedans, mais j'essaie de diviser ma prière en sections, juste où est-ce que, d'abord, je loue le Seigneur, je chante des cantiques et tout ça, ensuite, je m'attends au Seigneur, je fais faire le silence dans mon cœur devant lui, je confesse, c'est ce qu'il me rappelle, puis je prends ensuite un temps où est-ce que je prends position dans la guerre spirituelle. Au nom de Jésus, je me rappelle que je suis assis dans les lieux célestes en position d'autorité au-dessus de toutes les principautés, toutes les puissances démoniaques Je me rappelle que je suis en Christ et que je peux exercer l'autorité de Christ dans la prière. Pas parce que moi je suis quelqu'un, parce que Christ a fait de moi son enfant et que je suis à sa droite. Et c'est dans ce moment-là où est-ce que j'étais comme ça à me rappeler ça et aussi à réclamer les promesses de la parole. Parce que c'est quelque chose de merveilleux quand que dans la prière, on se ramène à la parole et on prie la parole. Et c'est dans un moment comme ça où est-ce que le Seigneur me rappelait comment en Jésus-Christ, on a déjà la victoire. Comment l'Évangile, c'est notre victoire. Et j'aimerais vous partager deux choses fondamentales par rapport à ça ce matin. Mais avant, je veux juste vous parler un peu de l'Évangile. Ben, le message, c'est sur l'Évangile, mais je vais vous introduire un peu sur cette grande vérité de la parole de Dieu. En fait, selon Romains 1, vous connaissez, hein, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oh, j'ai le droit d'un chocolat. Car en elle et en lui est révélée la justice de Dieu. OK? L'Évangile nous révèle la justice de Dieu. C'est la révélation de la justice de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu se glorifie dans l'Évangile. Il se présente comme étant le seul qui est juste. Et écoutez bien, le seul aussi qui peut justifier. C'est la rencontre de la justice et de l'amour de Dieu, tout ça est révélé dans la croix, l'Évangile, la bonne nouvelle, les deux grandes vérités qui se rencontrent. En fait, même dans le psaume 85, verset 11, ça nous parle de la justice et la paix qui se rencontrent. Et tout ça, c'est à la croix que ça se passe. Et ici, on vient de lire dans un des versets qu'on a lu. Au verset 4, ça dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » La splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ. Pourquoi il y a une splendeur? Pourquoi c'est la gloire de Christ? Parce que c'est là qu'est révélée la justice parfaite de Dieu, qui est donné à ceux qui se confient en Christ. Et ça, mes amis, c'est le plus grand acte de miséricorde que j'ai jamais eu dans l'histoire de l'humanité. C'est ça, la miséricorde. La croix est aussi une révélation de la miséricorde de Dieu. Comment on peut être délivré? La miséricorde, c'est être délivré de notre condition misérable. Et en dehors de Jésus-Christ, même si vous avez une belle vie, vous avez un travail, puis tout ça, spirituellement, si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, pardonné de vos péchés, vous êtes dans une condition misérable. Je ne veux pas dire ça pour être méchant, puis vous juger ce matin, mais quand même, si on avait tout le monde, Jésus a dit, si on gagnait tout le monde, qu'est-ce que ça sent si on perd notre âme? Et c'est dans ce sens-là qu'on est dans une condition misérable lorsqu'on est hors de Jésus-Christ. Et c'est pas compliqué, la Bible nous dit qu'on reçoit cet évangile par la foi. Et c'est drôle parce que dans ce passage, dans Romains, ça nous dit que cet évangile, c'est par la foi et pour la foi. Vous êtes-vous déjà posé la question? Ça, par la foi, pour la foi. Dieu, il met pas des expressions même pour que ça fasse un verset plus long puis que c'est plus dur à apprendre par cœur pour avoir plus de misère à avoir notre chocolat le dimanche matin. C'est pas pour ça. C'est parce que quand ça dit par la foi, c'est le salut. Ah, on est sauvé par la foi. Pour la foi, c'est notre sanctification. C'est le reste de la vie chrétienne. Ça nous rappelle que l'Évangile, c'est pas juste la porte d'entrée. L'Évangile, c'est toute la route. C'est toute la vie chrétienne. On va parler de ça un peu plus dans un instant, mais juste pour vous dire que l'Évangile, c'est la déclaration formelle de la justice de Dieu et de sa miséricorde. Et c'est pour ça que si vous repoussez, si vous êtes ici, puis vous repoussez encore cet Évangile, vous repoussez pas juste un message, vous repoussez une personne, vous repoussez celui qui est mort pour votre âme, vous repoussez la provision que Dieu a donnée pour que vous puissiez être réconcilié avec lui. Donc, restez pas dans cet état-là. Si vous n'êtes pas encore sauvé, mettez pas votre gloire au-dessus de celle de Dieu. Dieu s'est glorifié pleinement en envoyant son Fils. Il réconcilie sa justice et son amour, sa miséricorde à la croix. Ce qu'il faut faire, c'est le recevoir, s'y confier, voir que c'est ce dont on a besoin et le recevoir. Et ce que j'aimerais vous partager maintenant, c'est deux gloires de l'Évangile. Ça parle ici, hein? l'évangile de la gloire de Christ. On va voir deux gloires de cet évangile dans notre texte ici ce matin. D'abord, au verset 4, j'ai déjà parlé, ici ça dit « l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu ». La première gloire, c'est la gloire, l'évangile est la gloire de la miséricorde de Dieu. Au verset 1, ça dit « C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Paul se rappelait constamment que s'il pouvait avoir quelque justice devant Dieu, c'est pas parce qu'en tant que bon pharisien, il avait atteint les standards qu'il cherchait à atteindre pendant si longtemps. Oh non! Il rappelle souvent comment lui est le moindre de tous les saints et comment Dieu lui a fait miséricorde. C'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et donc, l'évangile, c'est la gloire de la miséricorde de Dieu. Et je l'ai dit, c'est aussi la révélation de la justice de Dieu. Car en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu. Mais savez-vous que ce n'est pas n'importe quoi. Ça dit dans Romains 1, ça dit que la colère de Dieu se manifeste contre toute injustice et impiété des hommes. Donc, c'est non seulement la révélation de la justice de Dieu, mais c'est la révélation de la justice de Dieu contre l'injustice des hommes. Le tableau, la gloire de la justice de Dieu, c'est sur l'arrière-plan de l'injustice, de la méchanceté, de l'iniquité des hommes. OK? C'est pour ça que c'est l'évangile de la gloire de Dieu, de la gloire de sa miséricorde. Parce que combien grande est la miséricorde quand on comprend combien grande est la transgression. Combien on apprécie la délivrance quand on voit comment on était esclave, comment on était dans une condition misérable. Et donc, cette gloire réside dans le fait que, puis là, écoutez bien, l'évangile, c'est la solution à l'impiété et l'injustice des hommes. C'est la solution. C'est la solution unique et parfaite au problème du mal dans le monde. OK? Je veux développer ça un peu. L'évangile, c'est la réponse divine, c'est la solution parfaite au problème universel du mal dans l'homme et à l'extérieur de l'homme. OK? Du problème universel qu'on voit autour de nous autres. La solution, ce n'est pas le résultat de la prochaine élection américaine. La solution, ce n'est pas un remède à un virus ou essayer de déceler toutes les manigances qu'il peut y avoir autour de la corruption, qu'il peut y avoir autour de tout ça. La solution, ce n'est pas ça. La solution, ce n'est pas une religion. La solution, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une politique. La solution, ce n'est pas un système de logique humaine. La solution au mal dans le monde, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Et on ne peut pas arriver à régler le mal dans le monde si on rejette l'évangile, si on ignore l'évangile, si on le met de côté, si on le diminue, si on essaie de l'amadouer pour qu'il soit plus acceptable pour l'homme. Non, c'est l'évangile tel que révélé dans la parole de Dieu. Ça, c'est la solution au mal dans le monde. OK? Et Paul développe ça. Dans 1 et 2 Corinthiens, il nous parle de l'évangile. OK? Il parle de pas mal d'autres choses aussi, là. Mais dans 1 et 2 Corinthiens, Paul nous donne 3 révélations de l'évangile. Ici, dans le verset 4, on a la troisième. Donc, on a commencé, si vous voulez, par la fin. Mais on va aller voir ensemble dans 1 et 2 Corinthiens, comment Paul souligne 3 aspects différents de la gloire de l'Évangile à travers ce qu'il nous donne dans 1 Corinthiens. Et juste pour vous dire, dans 1 et 2 Corinthiens, juste pour vous dire ici, c'est parce que Paul veut souligner comment c'est la seule solution au problème du mal dans le monde, c'est ça qui fait la gloire, c'est ça qui règle vraiment le problème de la chute dans lequel nous-mêmes on s'est mis. Par conséquent, tous les efforts humains, toutes les solutions humaines sont vaines, sont futiles. Il n'y a aucune rédemption avec l'homme. C'est pas pour rien que Ésaïe, ce prophète messianique, ce prophète évangélistique, dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, n'est-ce pas? » Puis en passant, Il y a deux grandes tendances de l'humanité. Okay, si on met l'évangile de côté, il y a deux grandes tendances humaines pour essayer de régler le mal dans le monde. Okay? Puis regardez la politique, regardez l'histoire. Ça tombe dans une de ces deux catégories-là. Okay? On peut même le voir même de façon des fois caricaturale dans certains partis politiques. Okay? Par exemple, il y a ceux qui disent que le problème, c'est les autres. Si je règle les autres, je vais régler le problème. Ça, c'est le socialisme, le communisme. Puis si on règle les partis qui sont comme ça en politique, ils vont dire, mais c'est parce qu'il y a ça, le prince, parce qu'il y a du racisme, il y a ci, puis il y a ça. C'est tout le temps les autres qui ne marchent pas avec les autres. Si je règle les autres, je vais régler le problème du mal dans le monde. OK? Ça, c'est blâmer. Ça nous ramène au Jardin d'Éden. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. OK? Ça, c'est une première catégorie, une première tendance. L'autre, c'est l'auto-rédemption. C'est les feuilles de vigne d'essayer de couvrir notre nudité avec les efforts humains. OK? C'est pas mieux. C'est d'essayer de se sauver nous-mêmes. OK? Ça, c'est une autre tendance qu'on peut voir dans des parties qui sont plus proches souvent des valeurs bibliques. Parce qu'ils vont croire justement qu'il faut prendre nos responsabilités. Puis ça vient de la Bible. Hein? Ça sert à jeter le blâme sur les autres. Il faut prendre nos responsabilités pour le mal qu'on fait. Mais si au bout du compte, ça ne m'amène pas à Jésus-Christ, je n'ai pas plus d'avance. Je prie avec des bonnes lois, mais juste avec la loi. Je n'ai pas le rédempteur. Je ne suis pas délivré de la loi. OK? C'est pour ça que c'est bien la loi et l'ordre. Puis on est pour la loi et l'ordre parce que ça vient de la Bible. Mais il n'y a pas de rédemption là-dedans. Si on essaie de nous-mêmes se sauver avec ça, il n'y en a pas. Ces deux tendances-là que je viens de vous dire, mettre le blâme sur les autres ou essayer de se sauver nous-mêmes, c'est deux solutions vaines, futiles, de l'homme qui passe à côté de l'Évangile, qui passe à côté de Jésus-Christ. Le centre de ces deux solutions-là, c'est l'homme, c'est pas Dieu. Maintenant, regardons ce que Dieu a à dire sur son évangile, sa délivrance, sur la gloire de ce que lui nous a donné pour délivrer ce monde du mal. Gardez votre place ici, là, parce qu'on va revenir dans 2 Corinthiens, mais on va aller dans 1 Corinthiens, au chapitre 1. Un verset que sûrement vous connaissez, un classique de 1 Corinthiens. Moi, j'ai lu les épîtres aux Corinthiens dernièrement. Wow, il y a du bon stock là-dedans. L'ouverture, hein, chapitre 1, puis... Le chapitre 2, il y a vraiment tellement de choses merveilleuses là-dedans. Mais là, on va juste lire deux versets. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Autrement dit, j'ai pas fait de l'homme, de moi, de la sagesse humaine le centre. J'ai fait de Christ le centre. OK? Parce que... Il aurait changé de centre d'attention. Mais regardez surtout verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » D'abord, l'Évangile, ce qu'on voit ici, l'Évangile confond la sagesse humaine. Ça confond la sagesse humaine. Personne n'avait pensé à une solution comme l'Évangile pour régler le problème du malheur. Personne n'avait pensé à ça. En fait, non seulement il n'avait pas pensé, quand tu leur dis, ben ça n'a pas de bon sens. C'est fou de penser de même. Ça confond toute sagesse. Mais c'est le point de Paul ici, à l'ouverture d'un Corinthien. Les Grecs disent ça, les Juifs disent, ben non, ça n'a pas de bon sens ton affaire. Effectivement, parce que l'Évangile confond toute sagesse humaine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'une origine humaine. L'Évangile, c'est pas une idée qui est sortie de la tête d'un génie ici sur Terre, de quelqu'un d'illuminé. L'Évangile sort tout droit du cœur de Dieu. C'est lui qui a inventé l'Évangile, si je peux m'exprimer ainsi. Ça vient de la pensée même du Rédempteur sans aucun mérite, assistance humaine. C'est pour ça que l'homme dit que c'est fou. Parce que c'est pas dans notre nature humaine de penser de même. Puis là, peut-être que quand j'exprime ça sur la sagesse humaine, vous pensez peut-être aux religions de ce monde, hein, qui essaient de gagner leurs œuvres avec des systèmes de mérite. Puis vous avez raison, effectivement. L'Évangile nous montre comment tout ça, c'est vain. OK? Mais il y a plus que ça. C'est vrai pour le salut, mais comme j'ai dit, l'Évangile, c'est aussi pour nous les chrétiens. C'est par la foi, pour la foi. Et donc, pour nous chrétiens, où est-ce que, pour grandir dans la vie chrétienne, c'est pas normal dans notre pensée déchue, ok, régénérée, ok, Dieu nous enseigne ça. Mais c'est pas normal de vivre à la lumière de la croix, c'est pas normal de vivre en s'appuyant sur aucun de nos efforts, puisque nous on fait, mais de s'appuyer seulement sur Christ. C'est pas normal de penser de même comme humain. Comme humain, on veut se retrousser les manches, on veut essayer plus fort. Mais la Bible nous dit de se reposer en Christ, que sa grâce est suffisante, qu'on a tout pleinement en lui déjà, que tout est là. Puis même que la Bible dit que cette grâce-là nous enseigne. Lorsqu'on comprend qu'on vit à la lumière de la croix, la grâce nous enseigne à fuir certaines choses puis à en rechercher d'autres. C'est la grâce qui fait ça. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va te le forcer dans la gorge contre ton gré. C'est la grâce qui fait ça. OK? C'est pas la sagesse humaine, c'est juste Dieu. Donc, l'Évangile confond la sagesse humaine. Ça lui donne sa gloire. C'est une première chose qu'on voit dans 1 Corinthiens 1. Maintenant, 1 Corinthiens 15. Deuxième révélation sur l'Évangile. La première, elle confond la sagesse humaine. Deuxième, 1 Corinthiens 15, encore très classique. Pourquoi on dit que c'est classique? Parce que c'est des passages qui nous révèlent ce qui est dans l'Évangile. L'Évangile, on vient de voir, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? La puissance de Dieu. Okay? C'est une révélation, ça. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Si on complète avec Romains, pour le salut de quiconque croit. Mais regardez ici, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je l'ai annoncé. » Autrement, vous auriez cru en vain. Juste une parenthèse, l'Évangile doit rester l'Évangile. On ne peut pas altérer l'Évangile, sinon c'est plus l'Évangile. Sinon, vous auriez cru en vain. Okay? Verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Donc, ici, ça nous révèle c'est quoi l'Évangile? C'est Christ qui est mort selon les Écritures, enseveli et ressuscité selon les Écritures. Ça, c'est l'essence de l'Évangile. Si on ne croit pas ça, on croit en vain. Donc, non seulement l'Évangile confond la sagesse humaine, mais l'Évangile aussi confond la confiance humaine. L'Évangile confond la confiance humaine parce que l'Évangile anéantit toute confiance en la chair, en nous-mêmes, en notre propre capacité à se délivrer du mal. Rappelez-vous, l'Évangile, c'est la solution de Dieu pour le mal dans le monde? Bon, mais c'est pas que la sagesse humaine, puis il n'y a personne qui a pensé à ça. Puis il n'y a pas personne non plus qui est capable, c'est pas en me confiant, en essayant bien fort d'arrêter le mal dans le monde. Non, l'Évangile, c'est la confiance repose aucunement dans moi ou dans un autre ici-bas sur terre, mais seulement en Dieu, sa provision. C'est pour ça que l'Évangile confond toute confiance humaine. Puis, c'est ça la foi qui sauve. La foi chrétienne, c'est la foi seule, en Christ seul, par la grâce seule. C'est ça la foi qui sauve. Cette même foi qui sauve, c'est aussi cette foi qui marche. On sait qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et la Bible dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, de même, marchez, demeurez en lui. Donc, la foi, la confiance en Dieu, c'est la seule façon d'être agréable à Dieu. Non seulement pour la rentrée dans la vie chrétienne, mais pour la marche, pour toute la suite de la vie chrétienne. C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. La foi, c'est un autre mot pour confiance. Me confier en Dieu. Puis, lorsque j'ai confiance dans la grâce de Dieu, j'ai confiance dans sa miséricorde pour me délivrer de ma condition misérable, ça va chasser toute confiance en moi-même, en mes œuvres, en mes mérites. Et C'est vrai aussi, c'est vrai pour le salut, c'est vrai aussi dans la vie chrétienne. Si vous êtes dans votre marche chrétienne depuis un bout de temps, puis je sais que le Seigneur travaille dans notre Église par rapport à ça. Mes amis, la vie chrétienne, c'est pas juste le commencement, c'est pas juste un ticket pour aller au ciel. La vie chrétienne, c'est une vie de confiance en Dieu. Et où se trouve la victoire? Où se trouve la paix dans l'adversité? Où se trouve la joie quand il n'y a rien qui nous rend joyeux? Elle se trouve dans le fait de se confier dans la provision de Dieu. Il y a une paix, il y a une joie, il y a une assurance que Dieu donne lorsqu'on se confie comme ça dans l'Évangile. Ça m'amène à notre texte de départ. Ça me ramène là, c'est-à-dire dans 2 Corinthiens, chapitre 4. La troisième façon que l'Évangile est glorieux, non seulement parce qu'il confond la sagesse humaine, il confond la confiance humaine, mais on relit le verset 4, 2 Corinthiens 4:4. « Et pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » La gloire de Christ. L'Évangile confond la gloire humaine. La gloire de l'Évangile va toute à Christ, va aucunement à nous autres. Si on comprend l'Évangile, si on a cru l'Évangile, on comprend qu'on n'a aucun mérite là-dedans. Tout le mérite va à Christ. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que lorsqu'on croit l'Évangile, qu'on accepte l'Évangile, on reconnaît qu'on n'a rien de bon à donner à Dieu. N'est-ce pas? Hein? Toutes nos œuvres sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. On ne peut pas impressionner Dieu. Impossible. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Mais on peut seulement répondre à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que c'est par la foi. C'est pas parce que je veux essayer d'avoir la gloire puis le mérite d'avoir fait de quoi, mais Dieu est tellement bon, son évangile est tellement glorieux de nous donner tout pleinement. On peut être réconcilié avec lui, on peut marcher de victoire en victoire face à tant de bonté. J'ai juste à répondre par la foi. Autrement dit, la gloire appartient à l'initiateur. C'est Dieu qui a commencé tout ça. Puis c'est à lui que vient tout le mérite. Comme j'ai dit, c'est pas sorti de l'ingéniosité de l'esprit humain. C'est pas parce qu'on se confie dans nos propres œuvres. C'est pour ça que toute la gloire va à Dieu. C'est lui qui a tout fait du début à la fin. Le plan, l'exécution du plan, puis la propagation du plan de l'Évangile. Tout vient de Dieu et de Dieu, et par lui, pour sa gloire. C'est pour ça que c'est seulement par la foi que je peux l'accepter. Ma foi, c'est la réponse à la miséricorde de Dieu. Maintenant, je vais appliquer ça avec... D'abord, je vais vous poser la question, je vais vous donner la réponse ensuite. Comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans ma vie? Avec une réponse qui reflète l'Évangile, qui montre la gloire de l'Évangile de la miséricorde de Dieu. Comment je peux montrer ça dans ma vie? Comment ça peut être visible, l'Évangile, dans ma vie? Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, là. OK? Mais comment ma vie peut être une proclamation de l'Évangile, non seulement en parole, mais en action, en vérité? OK? Mais je crois que c'est simplement de la même façon que Jésus-Christ nous l'a fait connaître. C'est-à-dire en répondant à toute l'injustice et à tout le mal, parce que rappelez-vous, on parle de la solution au mal dans le monde, là, OK? Comment Jésus a répondu au mal dans le monde? En rachetant, en amenant la rédemption, en délivrant. C'est ça la miséricorde, hein? En délivrant du mal. Maintenant, moi, je ne suis pas un rédempteur, je ne suis pas capable de faire ça. Mais Dieu, s'il est dans ma vie, c'est ce qu'il veut faire dans ma vie et à travers ma vie. Savez-vous ça? On n'est pas rédempteur, mais Dieu va opérer sa rédemption dans ma vie. Puis aussi avoir cette influence-là aux gens autour de moi. Je vous explique, OK? Comment l'Évangile peut avoir sa puissance dans ma vie? Je vais vous donner une couple d'exemples, je pense que ça va devenir un peu plus clair. D'abord, vous connaissez dans Matthieu 7, ça dit qu'on ne doit pas juger les autres, mais qu'au lieu d'essayer d'enlever la paille dans l'œil de notre frère, on doit d'abord enlever la poutre qui est dans le nôtre. Et vous savez que ça nous parle de l'hypocrisie. Ça dit « hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, puis alors tu vas... Donc, je peux aider quelqu'un, je peux, mais il faut pas que j'y aille en hypocrite, parce que l'idée, c'est que si j'arrive et dire, ben oui, toi, tu as donc des problèmes, puis moi, j'en ai pas de problème, j'ai une poutre. Parce que je vois pas que, ah oui, il y a des problèmes, c'est sûr, on a tous des problèmes. Mais j'en ai moi aussi, je veux pas aller auprès de lui en hypocrite, comme si moi, j'étais au-dessus des problèmes, OK? J'ai peut-être pas les mêmes que lui, mais j'en ai que c'est tout autant des problèmes, OK? C'est ça que Jésus enseigne dans ce passage-là. Maintenant, comment je vis ça d'une façon rédemptive? Comment est-ce que je vis ça à la lumière de l'Évangile, cette affaire de poutre-là, puis d'hypocrisie? Ben, c'est simplement avec l'humilité. Vous voulez que Dieu opère sa délivrance dans votre vie, puis se serve de vous pour aider les autres à qu'ils vivent dans leur vie aussi, OK? Enlever la peur qui est dans l'œil de votre frère. L'humilité. Parce que, dans le fond, ce que Jésus dénonce, c'est de dire hypocrite, parce que c'est de l'orgueil. Ah ouais, je vais t'aider, moi je sais comment, puis... Non! Quand on est humble, c'est ça, être pauvre en esprit. Sais-tu, je suis vraiment pas mieux que toi, mais je t'aime, puis je veux t'aider. Puis je vois que moi aussi j'ai mes problèmes, mais je veux t'aider avec la peur qui est dans ton œil. OK? Ça, c'est vivre à la lumière de l'Évangile, vivre à la lumière de la croix, c'est vivre comme quelqu'un qui comprend que tout vient de Christ. Puis que si je peux aider quelqu'un, c'est pas parce que moi je suis quelqu'un puis que j'ai fait... Non, dans l'humilité, je reconnais, mon ami, si c'était pas de Christ, si c'était pas de sa bonté, puis si tu vois, j'ai tellement besoin de Christ, j'ai tellement besoin de sa bonté parce que j'en ai des problèmes. Je suis pas meilleur que personne. J'ai juste pas les mêmes que les autres. C'est une bonne idée, ça, dans un couple, de se rappeler ça avec nos enfants. OK? Quand on voit à l'autre, ma femme ici, elle finissait par pouvoir être correcte. Oui, Dieu l'a fait avec son set de péchés et de tendances. Nos frères, nos sœurs dans l'Église, nos enfants, on a chacun notre set particulier. Mais au bout du compte, c'est toute la même affaire. On est juste des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. On n'a pas à regarder personne d'en haut. La Bible nous dit au contraire qu'on doit voir tout le monde comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ça va laisser Dieu opérer sa délivrance. Parce que je ne suis plus dans le chemin. Avec ma grosse hypocrisie et ma grosse poutre dans l'œil. Non, avec l'humilité, c'est pour ça que Dieu dit, humiliez-vous, puis le Seigneur va vous élever. Le Seigneur va opérer sa rédemption. Vous allez avoir de l'influence spirituelle dans la vie des autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui allez l'avoir. Vous allez être en dehors du chemin, puis Dieu va pouvoir le faire à travers vous autres. On n'a rien de bon à faire, nous autres. On n'a rien de bon à faire si on laisse juste Dieu... Dans l'humilité, puis par la foi en lui faisant confiance, Dieu va faire ce qu'il veut à travers notre vie puis dans nos vies. En passant, il n'y a pas besoin de nous autres. Il n'y a tellement pas besoin de nous autres qu'il faut que nous, qu'on se tasse du chemin. Tu sais, c'est pas qu'il n'y a pas juste besoin, il ne veut pas de nous autres, de nos œuvres, de la chair, puis de nos bonnes intentions, puis de nos efforts. Il n'en veut pas parce que ça ne sert à rien. Tout ce qu'il veut, c'est laisser Christ vivre à travers nous. OK. Deuxième exemple, venez avec moi dans le psaume 50. Gardez votre place encore dans 2 Corinthiens parce qu'on va y retourner encore. Psaume 50. Alors, on va lire les versets 14 et 15. Psaume 50, verset 14, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. » Regardez aussi le verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie et, à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Vivre à la lumière de l'Évangile, c'est vivre dans un état conscient d'action de grâce. Quand on comprend la croix, quand on comprend l'Évangile, la réponse est de dire « Wow, merci ». Et c'est un sacrifice, c'est pas naturel. C'est-à-dire, ça demande quelque chose, il faut qu'on pile sur notre orgueil, il faut qu'on pile sur notre incrédulité de tout le temps voir les choses à notre façon. Quand on vit à la lumière de la croix, tout ce qu'on a à offrir à Dieu, c'est des actions de grâce. Parce que la croix nous donne absolument tout. On a tout pleinement en lui. Et donc, pour vivre comme ça, à la lumière de la rédemption, que l'Évangile soit vraiment une réalité dans ma vie, c'est vivre dans la joie de cette délivrance. Wow! C'est pas pour rien que Paul dit, j'ai rien d'autre à prêcher que chez vous, il n'y a rien d'autre que je voulais aller prêcher que Christ et Christ crucifié. Paul vivait à la lumière de la croix, cette grande révélation de la justice de Dieu et de son amour réconciliés ensemble, qui est la solution à tout le mal dans le monde, tout le mal dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos relations, tout est là. Et quand on comprend ça, quand on le croit vraiment, qu'on est saisi par ça, c'est glaçons de grâce qui sort de nos bouches. Et mes amis, je pense que nos plaintes, parfois même peut-être nos complaintes, nos murmures, démentent notre incrédulité, notre hypocrisie, notre orgueil. On ne vit pas à la lumière de la croix quand on murmure. OK, une autre illustration. On va avoir plus de détails là-dessus. Le message de la semaine prochaine, Dieu voulant, à moins que le Seigneur dise quelque chose autrement, ça va être dans la première mention du mot miséricorde dans la Bible. Puis c'est dans Genèse 19. Où est-ce qu'on voit Lot? Hein, Sodome et Gomorre, la délivrance de Lot, le jugement de Sodome et Gomorre et la délivrance de Lot. Mais juste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Genèse 18-19, ça va ensemble, parce que dans Genèse 18, Dieu va vers Abraham, puis là, bon, il fait connaître son plan, puis là, Abraham intercède, OK, puis là, il descend avec le nombre de juifs, 50, puis il diminue, puis même s'il y en a 10, puis là, Dieu dit, ah oui, pour 10, je délivrerai. Mais on parle de, OK, comment, dans ma vie, si je veux avoir l'influence de l'Évangile, il faut que je vive à la lumière de cet Évangile, dans la reconnaissance, un esprit de reconnaissance de cet Évangile, mais aussi la prière. Remarquez comment Abraham, qui n'a jamais mis les pieds dans Sodome et Gomorre, a eu plus d'influence que Lot, qui est resté là toute sa vie, en tout cas une bonne partie de sa vie, a essayé d'influencer, puis Lot n'a même pas influencé non seulement les gens de la ville, bon, il était à la porte de la ville, il a pu avoir une influence, ça n'a pas bien marché pour lui. Même son cercle beaucoup plus rapproché, ses deux filles aînées avec ses deux beaux-fils sont morts. Ils n'ont pas cru. En fait, ils disaient, ils croyaient qu'ils plaisantaient. Ils prenaient pour un plaisantin. C'est pas une très bonne influence spirituelle quand que les gens les plus proches de toi te voient comme un plaisantin. Sa femme ne l'a pas suivi jusqu'au bout. Et ses deux filles cadettes, ça a fini mal. L'influence spirituelle. Wow! Comme je vous dis, on va en parler plus la semaine prochaine, mais juste pour souligner ceci. La puissance de l'influence spirituelle, ce n'est pas dans ce que l'homme glorifie, c'est dans ce qui glorifie Dieu. Qu'est-ce qui glorifie Dieu? Vive à la lumière de l'Évangile, vive à la lumière de sa provision. Que l'Évangile, ça soit tout ce qui occupe mes pensées, mon cœur, que tellement un point où est-ce que j'offre à Dieu ce sacrifice d'action de grâce parce que je comprends la grandeur de la croix puis de l'Évangile. Puis aussi, qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui glorifie Dieu? La prière. Combien de fois on essaye donc, nous-mêmes, il y a même un cantique là-dessus. Hein? Quel ami fidèle et tendre. What a friend we have in Jesus. Puis là, ça dit, ah, combien qu'on se donne de la misère. Finalement, le cantique, en gros, là, ce que ça dit, combien qu'on se donne de la misère, comment qu'on a des détours et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'amène pas à Dieu tout dans la prière. All because we do not carry everything to God in prayer. Je pense qu'en français, c'est pas exactement ça que ça dit, hein? En tout cas. Ça m'amène à la deuxième gloire de l'Évangile ce matin. La gloire de l'Évangile dans ses enfants. Regardez, revenez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Regardez le verset 7. Après nous avoir parlé de la gloire de l'Évangile dans la première section, les 6 premiers versets, ça nous dit au verset 7, « Nous portons ce trésor de gloire, ce trésor qui vient de Dieu dans des vases de terre. » Ça, c'est nous, ça. On est des vases de terre. « Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » La gloire de l'Évangile dans ses enfants. Je l'ai déjà souligné dans des messages précédents, l'Évangile, c'est d'abord et avant tout pour les enfants de Dieu. Savez-vous ça? Parce que c'est pour les perdus aussi, parce que c'est comme ça qu'on connaît Christ. Mais parler à un non-sauvé de l'Évangile, il va dire « t'es fou, il va pas l'apprécier ». C'est la porte d'entrée par laquelle il faut qu'il passe. S'il s'humilie puis il se confie dans l'Évangile, il va rentrer par la porte étroite. Mais je veux dire, c'est juste une porte d'entrée pour lui, c'est juste un point de départ. Pour nous, c'est toute notre vie. C'est pour ça que c'est d'abord et avant tout pour nous autres. Et on a fait cette erreur. On a prêché l'Évangile aux perdus et la loi aux sauvés. C'est-à-dire qu'on est arrivé aux perdus, on disait « Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Dieu t'aime, Dieu veut que tu ailles au ciel. » C'est quoi? Un non-sauvé, là, dans son esprit non régénéré, là. Il va mépriser ça ou il va dire « Ah, ben c'est sûr que Dieu m'aime, puis c'est sa job, Dieu, de pardonner, puis OK, moi aussi j'ai un plan merveilleux pour ma vie, c'est tant mieux que Dieu, il n'aille aussi avec moi, puis... » Tu comprends? Il n'apprécie pas. Pourquoi? Tu n'apprécieras pas la grâce, l'Évangile, si tu n'as pas été frappé par la loi. Les perdus, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être confrontés aux 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne feras pas d'autre Dieu devant ma face, puis tout ça. Là, il va, wow, je suis dans le trouble avec Dieu. Quoi? La colère de Dieu demeure sur moi. Dieu est juste en me donnant ce que je mérite parce que j'ai brisé sa loi. Oh, là, ça fait du sens d'avoir une solution, une délivrance, n'est-ce pas? C'est pour ça que la loi est pour, ça le dit, Paul il dit dans, je pense, c'est 1 Timothée, la loi c'est pour les injustes, c'est pour les parias, puis il fait une longue liste, là. La loi, c'est pour nous conduire à Christ, mais nous qui sommes sauvés, c'est pas que la loi est plus bonne, on en a parlé les mercredis soirs, on n'est pas antinomien, mais un bon usage de la loi nous amène toujours à Christ. En tant que chrétien, la loi, c'est pour nous rappeler comment on a besoin de Christ. La loi est bonne parce qu'elle nous montre comment on tombe court. Hein? Comme je le disais le mercredi soir, la loi dit tout le temps, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas pantoute en bon québécois. C'est ça que la loi nous dit. Puis, ça nous rappelle, mais Christ a tout fait pour toi. Christ est suffisant. Confie-toi en Christ, repose-toi en lui. OK? Maintenant, pourquoi avoir inversé ainsi le rôle de la loi puis de la grâce, l'ordre divin? Et d'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Regardez les prédicateurs dans l'histoire, c'est ce qu'ils disaient. La loi aux perdus, la grâce aux sauvés. OK? Ou souvent, ils disaient, faut que les gens soient blessés par la loi pour qu'ils puissent être guéris par la grâce. OK? Puis là, avec la grâce, tu rentres dans la vie merveilleuse qu'on a par l'Évangile. Mais pourquoi c'est grave d'avoir inversé comme ça l'ordre divin? Pourquoi c'est mauvais? Parce que c'est à la base de toute la pensée légaliste, de la sanctification par les œuvres. Et comme un prédicateur, c'est Jim Van Gelderen qui disait, on a besoin d'un changement de paradigme. C'est-à-dire d'arrêter de penser que, OK, je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais que quand vient le temps de la sanctification, à quelque part, faut que j'impressionne Dieu, puis mes œuvres, ça joue un grand rôle important. Non, on est sauvé pour des bonnes œuvres, mais pas par des bonnes œuvres. Puis la sanctification, c'est pas parce que j'essaie de faire de quoi qui va impressionner Dieu. Les œuvres que je produis dans ma vie, c'est du fruit. C'est le fait que Christ vit en moi, et là, ça va produire de quoi? L'ordre est important. OK, je veux juste vous donner ici une pensée par rapport à notre texte. Dans notre texte ici, dans le chapitre 4, dans 2 Corinthiens, il y a 4 références à la gloire. Verset 4, verset 6, verset 15, verset 18. OK, 4 fois le mot grâce, gloire. Pardon. Dans le chapitre 3, 7 fois le mot gloire, 6 fois le mot glorieux. Donc, le contexte immédiat ici nous enseigne quelque chose. Le chapitre 3, ça nous parle du ministère du Saint-Esprit, la nouvelle alliance, OK? Le Saint-Esprit qui la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Puis c'est pas nous qui est capable, c'est Dieu qui nous rend capable. Et c'est toute l'importance. C'est lui aussi qui enlève le voile. C'est l'esprit qui donne la liberté. Là où est l'esprit, là est la liberté. C'est l'esprit qui nous transforme de gloire en la même image. C'est le ministère du Saint-Esprit, c'est la nouvelle alliance, ok? Ça, c'est la gloire de Dieu dans ses enfants, ok? Ça, c'est chapitre 3. Chapitre 4, c'est les conséquences de ça. On dit, wow, avec un ministère glorieux comme le Saint-Esprit, ma vie va être belle, elle va être facile. C'est l'évangile de la prospérité. Non, au contraire, chapitre 4, ça parle de persécution, ça parle d'être pas compris. On n'a pas continué pour tout le reste du chapitre, mais regardez verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Bon, parlez-moi de l'évangile de la prospérité, il y a quelque chose qui ne fit pas vraiment ici, là. OK? Mais c'est ça l'idée, c'est à cause de cette gloire du ministère du Saint-Esprit dans chapitre 3. Le chapitre 4, ça nous parle de la conséquence. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Quand tu es la lumière dans un lieu ténébreux, c'est sûr que ça va clasher à quelque part. Quand tu es le sel de la terre, il faut que tu t'attendes à avoir de la corruption à un moment donné, parce que c'est ça l'idée, hein, le sel, c'est contre la corruption, ben. C'est le sel, tu vas t'attendre à ce qu'il va y avoir du pourri à quelque part. Pour prendre graphiquement, là, les gens prenaient le sel pour préserver la viande, pour pas qu'elle pourrisse. Mais si on est du sel, il faut s'attendre à avoir un petit peu de pourriture par-ci, par-là, des fois. Si on est la lumière, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un clash avec les ténèbres. Pourquoi? Parce que la solution de Dieu au mal dans le monde, c'est l'Évangile. Je l'ai dit. Et si je ne fais pas partie du problème, je fais partie de la solution. Si je suis sauvé, Dieu a fait de moi son ambassadeur, je suis un enfant de lumière qui brille au milieu des ténèbres, je peux m'attendre à ce qu'il y ait de l'opposition. Je peux m'attendre à ce que je ne sois pas accepté, qu'il n'y ait pas le tapis rouge si je m'en vais comme missionnaire au Soudan, que je ne vais pas avoir le tapis rouge qui m'attend. Non, c'est un autre rouge, c'est probablement mon sang qui m'attend. Comprenez-vous? C'est ça, la vie de l'Évangile. C'est pour ça que c'est si important, la foi. L'Évangile, quand on vit à la lumière de l'Évangile, on vit par la foi. Comme dans des moments, en ce moment, bon, je ne sais pas si on appelle ça une crise, c'est plus aussi pire que c'était, mais on a tous été ébranlés avec tout ce qui est arrivé. Tous nos repères, tout, hein? C'est, mettons que l'année 2020, on va l'appeler l'année, je ne sais pas, des surprises, des déceptions, certainement aussi. Déception, pas comme en anglais, deception, mais disappointment. Hein? Si on avait des plans, puis ci, puis ça. Mettons qu'il y a pas mal d'affaires qui n'ont pas viré comme on aurait pensé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui nous fait passer triomphalement par des moments de même? C'est notre réponse à ce que Dieu fait. Parce que si on croit à la souveraineté de Dieu, on sait que Dieu n'est jamais l'auteur du mal, mais savez-vous quoi? C'est Dieu qui a envoyé tout ça. C'est Dieu. Est-ce que Dieu l'a échappé et a dit, « Oh, man, j'avais pas pensé à ça. Ils m'ont pris de court, eux autres, avec leur affaire de COVID-19 et tout ça. » Non, Dieu n'est pas surpris de rien. Il est au-dessus de tout ça, puis il contrôle tout. Puis savez-vous quoi? Ça veut dire qu'il a tout pourvu pour que ses enfants là-dedans soient plus que vainqueurs par celui qui les a aimés. Non seulement il n'est pas surpris, mais il a déjà tout pourvu, pour qu'on puisse triompher dans ces circonstances-là. Notre part, c'est de prendre cette provision. C'est ça la foi. La foi, c'est une confiance. Se confier dans ce que Dieu a donné. Et Dieu a déjà tout donné. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas encore sauvé. C'est pas parce que Dieu n'a pas pourvu le moyen. C'est parce que vous n'êtes pas confié dans ce moyen-là. Vous n'avez pas reçu le pardon des péchés par Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, puis vous vivez dans le murmure, la défaite, puis une vie redondante, c'est pas parce que Dieu n'a pas pourvu. C'est parce qu'on ne le prend pas. On ne se confie pas dans ce que Dieu donne. Ça me ramène au début du texte, et je termine avec ça ce matin. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et vous, qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Il vient de parler du ministère du Saint-Esprit, la gloire, vous rappelez, je vous l'ai dit dans le chapitre 3. C'est pourquoi Paul se rappelle ces choses-là, puis là, il se rappelle que tout ça, c'est la miséricorde de Dieu. Autrement dit, Paul vivait à la lumière de la croix. Il se rappelait que s'il était ce qu'il était, que s'il ne perdait pas courage dans ce qu'il était, c'est parce que Dieu était miséricordieux, que Dieu délivre encore de nos conditions misérables, que Dieu a toujours, en tout moment, ce que ça nous prend pour qu'on puisse triompher de toutes circonstances. Paul vivait à la lumière de cette grande vérité. Mais regardez aussi le verset 2. Nous rejetons toutes choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse ou trompeuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. On n'essaie pas de la changer. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Paul, après avoir parlé de la grandeur du ministère qui lui a été confié dans chapitre 3, d'abord, il dit négativement qu'il n'est pas de ceux qui manipulent. Il dit, c'est pas ce que j'essaie de faire. J'essaie pas de manipuler les gens, puis d'être astucieux, puis d'altérer la parole de Dieu pour essayer d'arriver à mes fins. Vraiment dit, c'était pas le genre de preacher qui arrivait à son résultat en mettant sur les gens une espèce de guilt trip, de mettre les gens sur une culpabilité pour avoir des résultats. Puis qu'il y a, OK? Non. Positivement, ce qu'il dit, non. La deuxième partie, mais publiant la vérité. Paul savait que la vérité n'a pas besoin d'aide. Que la vérité, c'est la vérité que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement ceux qui ne sont pas sauvés et qui guide les enfants de Dieu dans toute la vérité. Si tu fais simplement la publier, la proclamer, Dieu va se servir de ça. C'est le matériel dont Dieu se sert pour faire son œuvre. Tout ce qu'on a à faire, c'est de la dispenser droitement, d'être fidèle aux Écritures et savoir que lorsque ça s'est fait, la puissance convaincante, la puissance vivante de la parole de Dieu va porter du fruit. C'est la parole vivante du Seigneur. Avez-vous déjà essayé un pommier? Avez-vous déjà essayé d'aider un pommier à faire pousser des pommes? Vous allez perdre votre temps. Ben, on ne peut pas aider la parole à porter du fruit. Il faut juste qu'on la proclame. Ou pour prendre l'image du pommier, il faut juste planter la semence. Et la vie qui est dans cette semence va porter du fruit. Si on proclame la parole vivante, sans excuse et pleinement, complètement, sans rien en cacher, tout le conseil de Dieu, Dieu c'est de ça qu'il va se servir. Il n'y a pas besoin des artifices humains, il n'y a pas besoin d'assistance humaine. Il y a juste besoin qu'on soit fidèle. Du reste, ce qui est demandé des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Paul a dit à Timothée, les choses que tu as apprises et reconnues pour certaines. Je vais vous lire le verset. C'est dans 2 Timothée 3,14. Il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. C'est ça qui fait la gloire de l'Évangile, la gloire de l'Évangile de la miséricorde de Dieu. C'est que ces choses qu'on a apprises puis reconnues pour certaines, c'est pas nous qui en sommes le centre, c'est Dieu qui en est le centre. C'est lui le centre du message, le centre de l'action, le centre de l'attraction. C'est lui, en Jésus-Christ. Il a manifesté sa justice, sa miséricorde, qui a réconcilié par la croix. Et nous, si on demeure dans ces choses qu'on a apprises, pour ça encore, ça nous montre l'Évangile, c'est quelque chose dans lequel on demeure, on s'entretient, on garde ça toujours devant nos yeux. Si on demeure dans ces choses et que on les reconnaît certaines, c'est là qu'est la victoire, c'est là qu'est le triomphe dans nos circonstances. Mes amis, Dieu, c'est simple. Dieu a donné une solution au problème du mal dans ta vie ici ce matin, dans notre église,
dans notre ville de Québec, puis jusqu'aux extrémités de la terre, il y a une solution. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et que Dieu nous aide à vraiment le saisir. Saisir la grandeur de ça. C'est pas compliqué. Il y a une façon de régler tout le mal qui est dans le monde, puis tout le mal qui est dans mon propre cœur. C'est dans ce que Dieu a pourvu en Jésus-Christ. L'évangile, Dieu qui réconcilie l'homme avec lui-même et qui donne à ses enfants tout ce dont ils ont besoin. On a été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pour comment c'est arrivé? Par l'évangile. Donc, je vous pose une question en terminant. Et c'est une question d'introspection. Je la pose tranquillement, puis considérez la réponse devant le Seigneur. Est-ce que tu es encore émerveillé de l'évangile? Est-ce que tu trouves un repos dans l'évangile, dans ce monde en tumulte? Et c'est ça l'évangile, c'est ça vivre avec un sacrifice d'action de grâce, de wow, tout est là. Toute la solution à tous mes problèmes est là. Est-ce que tu te reposes dans cette justice que tu as reçue, dans cette miséricorde qui t'a été faite, t'as été délivré? Si tu es ici et tu es un enfant de Dieu, tu as été délivré de ta condition misérable. Et si tu es ici et tu n'es pas un enfant de Dieu, la Bible nous dit que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Essaye pas de gagner ton ciel. Va à Christ. C'est lui qui t'a donné l'accès au ciel. Et les enfants de Dieu qui sont ici, qui écoutent, essayons pas plus fort. Faisons simplement nous confier dans la provision de Dieu. Tout est là. Est-ce qu'on en est émerveillé encore? Est-ce que nos cœurs chantent les louanges de la grandeur de la délivrance de Dieu? Seigneur, on te remercie ce matin qu'on a pu considérer quelque chose de si grand et si merveilleux, Seigneur, que je sais que je n'ai pas fait honneur à la grandeur de l'Évangile et comment il y a tellement de richesses, de merveilles qui sont révélées dedans. Mais Seigneur, toi qui es notre enseignant, toi qui révèles les choses, on te prie que tu puisses vraiment émerveiller nos cœurs, ouvrir nos yeux sur la grandeur de la gloire de l'Évangile de ta miséricorde. Comment on a la délivrance de tout mal par ce seul moyen. Merci Seigneur que tu as tout parfaitement pourvu et que la simple chose que tu nous demandes, c'est de se confier dans ce que tu as pourvu, d'enlever les yeux de nous-mêmes, d'enlever la confiance dans nous-mêmes et la placer complètement et seulement en toi. Je prie que s'il y en a qui ne sont pas encore sauvés, que ce soit ça qui arrive pour le salut de leur âme, la porte d'entrée par laquelle ils ont accès à cette grâce. Et je prie pour nous, tes enfants, Seigneur, qu'on voit que la vie chrétienne, c'est vivre à la lumière de la croix, de l'Évangile. On s'en remet en tes mains, Seigneur. Dirige ce temps de prière maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous